oscillation intemporelle. Et si le dimanche à 19h était le moment d'une autre évasion sonore décalée et pas pareille sur fréquence 7, le moment d'une pause grandiose, intimiste, virtuose aussi, qui résonne de créations sonores et musicales d'au-delà notre quotidien, ce que très largement chacun appelle selon son goût dans notre monde occidental, musique classique, musique savante ou grande musique. Les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois à 19h, Oscillation intemporelle vous propose de partir pour une heure à la découverte de ces musiques en suivant le fil d'une époque, d'un compositeur, d'un musicien, d'un instrument, d'un orchestre ou chef d'orchestre ou d'une forme musicale. Cela agrémenté de l'histoire dans l'histoire des œuvres diffusées, de petits potins et de la raison en toute mauvaise foi passionnée de leur choix. Oscillation intemporelle est animée par Marie au micro et à la conception, avec la complicité de Philippe Forger et le soutien technique de Sylvain. L'émission de ce mois de juin est la dernière de la saison. Elle sera en deux parties. La première en suivant le parcours de Philippe d'instrumentiste à chef d'orchestre et la deuxième en s'accompagnant encore pour en savoir plus sur la voix humaine, la voix des hommes, celle qui chante et ses registres quand elle chante de façon lyrique. Au son de la voix de Philippe se joignent un chef, Kazushi Ono, et un chanteur, Hans Potter. Pour le poème symphonique Don Juan de Richard Strauss et quelques leaders de Franz Schubert. Comment on est musicien et qu'on devient chef ?
Ah ben d'abord, j'espère que le chef d'orchestre est encore un musicien. Et...
ouais, mais il y a un instrument qui est carrément fabuleux. Ils sont 50 ou 100.
Ouais. Ouais. Bah, déjà sur les mots, sur le champ sémantique, les Allemands ils disent dirigent, mm-hmm. c'est-à-dire celui qui montre une direction. Et les Anglais disent conductor, donc celui qui conduit. Et nous on dit chef. Donc c'est pas génial. Moi je faisais du basson, c'était mon instrument. Donc j'ai fait de l'orchestre, j'ai joué dans les orchestres. Et je trouvais juste la patte orchestrale extraordinaire. C'est un matériau qui est quand même génial. Enfin, c'est une énergie, c'est une. Une vague qui vous submerge, voilà, on peut pas trop se représenter ce que c'est tant qu'on n'a pas été dedans à l'intérieur une fois. C'est vraiment phénoménal comme sensation. Et moi je me disais, mais la personne qui est devant, mais c'est trop génial quoi, de pouvoir à la manière d'un peintre choisir un peu les couleurs, comment est-ce qu'on fait, enfin voilà. Bon, il y a une petite partie de one man show quand même hein, parce qu'il faut les tenir hein. Après, avec le temps, on se rend compte qu'il ne faut pas chercher à séduire parce que ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas. Mais il faut être carré, faut être efficace. Faut entendre, faut écouter, faut rectifier. Et puis, faut construire un propos. Et au début, quand j'ai essayé ça, la direction d'orchestre, bah c'était magique hein, parce qu'on bouge les bras, il se passe quelque chose. Bon, il ne passe pas toujours ce qu'on voudrait, mais ça dépend comment on bouge les bras, justement. Et puis, j'ai eu la chance de tomber sur des orchestres qui m'ont fait confiance, donc qui m'ont proposé de revenir. Et c'était pas si simple de concevoir, en fait, cet espace sonore qui est tellement incroyable. Là, j'en reviens, parce qu'il y a une semaine, j'étais encore en Grèce pour faire la Traviata. Et c'est un orchestre que je connais très 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 bien, là-bas, l'Orchestre National, à Thessalonique. Donc il y a 90 musiciens, c'était super, et on se connaît bien, c'est-à-dire qu'il y a un gain de temps, déjà, qui est incroyable quand j'arrive, c'est qu'on n'a pas à rentrer dans une parade amoureuse, pour dire, vous allez voir, ça va bien se passer, de toute façon, vous n'avez rien à craindre avec moi, ou les autres de me montrer, ouais, moi je joue fort si je veux, voilà. On n'a pas besoin de passer par là, du coup je peux rentrer dans le son, tout de suite. Et moi, j'avais beaucoup travaillé avec un chef d'orchestre japonais dont j'étais l'assistant pendant quelques années, qui s'appelle toujours Kazushi Ono. Et Kazushi, il parlait pas beaucoup en répète. Bon, il pouvait pas, parce qu'il parlait pas très bien français. Et du coup, il parlait pas beaucoup en répète, mais il y a tout son être qui était d'une concentration incroyable et un geste très très épuré, très efficace et magnifique. Et les musiciens, en face, ils n'ont pas le choix. Ils vont vers lui. Et là, il se passe quelque chose. Et c'est dès cet instant où il se passe quelque chose qu'on commence à travailler. Et ça, c'est super. On est en train de fabriquer une espèce de construction en cristal. Donc, c'est très fragile. C'est magique. Et on en a conscience que c'est très beau. On est en train de travailler. C'est super. Donc, tout le monde est très précautionneux. Et voilà, ça y est, la première répétition est terminée. Donc, après, il nous en reste deux ou trois pour monter le programme. Donc, il faut être à la fois très efficace et se dire, j'ai laissé le truc ici hier. Vite, maintenant, je retrouve le chemin rapide pour y retourner. Là où j'ai laissé les choses hier. Et en fait, c'est pouvoir travailler sur les couleurs. C'est pouvoir dire 90 fois dans une répète, non. Mais une fois, ah ouais. Ben parce qu'on a, ça y est, on a mis le doigt sur quelque chose. Mmh. Et le quelque chose en question, ben, le lendemain, peut-être, on va le retrouver plus vite. Ce qui est sûr, c'est que deux mois après, il n'existe plus. Faut refaire. Parce que c'est pas un disque. C'est spectacles vivants.
C'est des humains qui jouent avec leurs instruments les uns à côté des autres pour faire un son ensemble.
Ben oui, voilà. Et du coup, c'est est-ce qu'on a tous conscience de savoir dans quoi on évolue ? Le hautbois qui joue le solo, est-ce qu'il a bien conscience de ce qui se passe en dessous aux altos ? Est-ce que la rythmique du violoncelle, elle est suffisamment claire pour que la flûte, elle puisse construire dessus ? Est-ce que les trompettes, ils ont bien réalisé que c'était franchement trop fort ce qu'ils faisaient et que voilà. Et moi, mon travail, c'est ça, c'est de les mettre dans tous ces plans sonores là pour qu'on le fasse ensemble dans quelque chose qui est, j'espère, très organique. Et en fait, au moment d'un concert, ben, y a plein d'endroits où la présence du chef, elle est importante parce qu'elle c'est un vecteur. Mais j'ai pas besoin de diriger puisque c'est eux qui jouent et qui se sont appropriés ça. Et ça, c'est super. Et je pense que la meilleure des écoles pour apprendre à être chef d'orchestre, c'est l'opéra. Parce que l'opéra, c'est l'orchestre dans la fosse et des chanteurs au-dessus. Et il faut qu'il y ait une courroie de transmission. Et le chef est la courroie de transmission. C'est-à-dire, si je commence à expliquer à l'orchestre ce qui se passe au-dessus, ça ne marche pas. Si je commence à empêcher les chanteurs de chanter... Ben, ça marche pas non plus. Donc en fait, il faut être une courroie de transmission. Alors à la fois, c'est faut être humble, hein, c'est parce qu'on n'est pas le seul maître à bord, du coup. Et puis aussi, c'est juste une efficacité pour garantir une fluidité. Et ben moi j'adore ça.
Et donc t'as eu, t'as aimé, t'as été fasciné, t'as fait une école avant d'être assistant. Il y a une école? Il y a une école de...
Il y en a un peu plus aujourd'hui. À l'époque, moi, j'en avais pas. Il n'y en avait pas. Ouais. Et puis surtout, c'était des parcours de musiciens qui avaient déjà plein de prix, de conservatoires, tout ça. Moi, ce que j'avais pas. Moi, j'ai commencé à travailler relativement tôt parce qu'il fallait que j'aille 3 sous. Donc voilà, je ne suis pas d'une famille de musiciens non plus. Donc je me suis un petit peu débrouillé comme ça. Mais je me rappelle, alors moi j'ai eu beaucoup de chance quand même dans mon parcours, et à un moment donné, moi je me suis retrouvé assistant à l'Opéra de Paris. Donc pendant 2 saisons, j'ai fait ça. Avec...
Assistant en chef.
Ah oui, assistant, ouais, assistant, voilà. Et pour la petite histoire...
T'as juste dit, j'aimerais bien être assistant.
J'ai envoyé des dossiers partout. Alors à l'époque, il fallait aller chez Lips, on faisait des photocopies, ça coûtait très cher, puis on postait le truc à la poste, et puis on en postait 50, c'était un budget, hein. C'était un budget, et puis il y en avait 2-3 qui répondaient que peut-être, voilà, etc. Donc après, il fallait investir des billets de train, il fallait y aller, enfin bon, c'était des budgets, quoi, que j'avais pas. Et puis un jour, il y a l'Opéra de Paris qui a dégainé et qui m'a proposé, sur 2 saisons, d'être présent sur plusieurs productions. Donc ça, c'était incroyable. Et à l'époque, le directeur musical de l'Opéra de Paris s'appelait James Conlon, donc c'était un chef américain, qui lui, très gentiment, me dit « Mais viens aussi travailler avec moi cet été à Aspen, dans le Colorado. » Ouais, pour moi, c'était de la science-fiction, parce que j'avais pas le commencement du début d'un radis pour me payer un voyage à Aspen, dans le Colorado. Donc j'ai jamais fait des trucs comme ça. Mais c'était ça aussi, c'était qu'il y a 30 ans, j'espère, je sais même pas si ça s'est un peu démocratisé. Mais si on n'avait pas beaucoup de thunes, c'était même pas la peine de penser vouloir faire une carrière comme ça. C'était pareil pour les chanteurs d'opéra. Il fallait de l'argent. C'était pareil pour les chefs d'orchestre, il fallait de l'argent. Donc c'était pas pour tout le monde. Et à l'époque, quand moi j'ai commencé mes 2 saisons à l'Opéra de Paris, tous les jours quand j'arrivais à Bastille, il fallait que je signe un registre et on me donnait un petit autocollant jaune C'était marqué passager. Et le petit truc de l'autocollant jaune qu'on se doit se coller quelque part, c'était un peu limite. Et puis personne ne me disait bonjour. Puis un jour, je suis arrivé, j'ai signé, puis on me dit « Ah, ben, on a une enveloppe pour vous. » Et il y avait un petit badge avec mon nom, le logo de Opéra Bastille, Opéra Garnier. Et mon nom, il s'était marqué « Direction musicale ». Je l'ai accroché, et tout le monde m'a dit bonjour.
Ah, là, là.
Et là, je me suis dit « Ça, c'est très formateur, parce que c'est pas pour ça que je fais de la musique. » Et que du coup, je pense que mon boulot, c'est pas un truc de hiérarchie sociale ou de je sais pas quoi, c'est de permettre que des choses existent parce qu'on me fait confiance et que quand je me trouve à un endroit, bon, puis maintenant j'ai 54 ans, donc ça va, mais faut me laisser faire. Et que mon travail, c'est de permettre aux autres de faire ce qu'ils ont à faire. Et donc, il n'y a pas un truc de je suis le boss, je suis le patron, je suis ci, je suis ça, non. J'ai une super relation depuis 11 ans avec l'Orchestre National à Thessalonique. C'est pareil à l'Opéra d'Athènes, c'est pareil à l'Orchestre de Chambre à Hong Kong. Et ça, j'en suis ravi parce que c'est des endroits où je reviens. Donc on se connaît. Donc la confiance et ce qu'on a déjà réalisé ensemble me permet à moi de prendre ma place dans leur identité d'orchestre ou de théâtre. Et ils me font de la place. Et ça, c'est formidable parce qu'un chef d'orchestre, c'est pas qu'une queue de pie un soir de concert, quoi. On va gérer des conflits, on va gérer des tensions, on va gérer des gens qui se sentent des fois pas capables parce que sur un solo, en répétition, ils s'effondrent et que les collègues ne sont pas toujours très bienveillants. Enfin, c'est des communautés humaines où tout est un peu exacerbé. Alors quand ça marche bien, c'est extraordinaire. Mais attention, quand ça ne marche pas, ça peut être très compliqué aussi, comme toutes les communautés humaines. Mais nous, notre charte d'objectif, elle est sur quelques jours. Elle n'est pas sur un an. Donc, il faut y aller avec un mental très calme, très préparé sur les partitions. Et puis, moi, ça m'arrive, comme tout le monde, d'être des fois en difficulté, en répétition ou dans des spectacles. Et je me dis, oh, respire, musique, plaisir, et fais confiance.
Et ça existe des orchestres qui ont leur chef ?
Oui, oui. Alors, les orchestres ont souvent un directeur musical. C'est-à-dire qu'il va diriger une certaine partie dans la saison, mais ça n'empêche pas d'avoir des chefs invités.
D'accord.
Voilà.
C'est ça.
Thank you. Thank you. Thank you.
Nous venons d'écouter le poème symphonique Don Juan, opus 20 de Richard Strauss. C'était par le Bruxelles Philharmonique, sous la direction de Kazushi Ono. Ce poème symphonique a été écrit en 1888-1889. Strauss a 25 ans. C'est la première de sa série de pièces symphoniques à programme. Quelles sont les voix humaines qui chantent ?
Ah, mais toutes les voix humaines chantent. Toutes les voix humaines chantent.
Ah, vas-y, les tessitures.
Ben voilà, il y a les tessitures. Mais le premier truc, je crois, qu'il faut dire, c'est que la voix, elle a quelque chose que les instrumentistes n'ont pas. Elle a le texte. Elle a le texte, elle a la poésie, elle a le sens, elle a quelque chose en plus avec les mots. Donc ça, c'est formidable. Ce qui fait qu'avec des voix populaires, on peut chanter de la musique populaire. On peut chanter la poésie de son pays, on peut chanter de la nostalgie, la mélancolie, l'espoir. Avec des chants religieux, on peut chanter quelque chose de plus spirituel. Et puis on peut adopter beaucoup de choses comme ça. Mais à l'opéra, on va incarner des personnages. La voix permet d'être un personnage. Donc ça me fascine, c'est-à-dire de pouvoir transformer, parce qu'avec le pouvoir du livret, c'est-à-dire l'histoire de l'opéra, du texte, plus la couleur vocale, ben voilà, on peut être une soprano dans un rôle de jeune soprano de 20 ans, comme on peut être aussi une soprano avec un rôle de 60 ans, ou on peut être quelqu'un de 80 ans. Enfin, je veux dire, tout est possible avec la voix, à condition d'en respecter l'évolution. Mmh. Et ça, c'est très, très bouleversant. Il y a par exemple un opéra de Richard Strauss qui s'appelle Le Chevalier à la Rose. Et ça s'ouvre sur une scène incroyable. C'est une femme, qu'on imagine une femme peut-être d'une cinquantaine d'années. Bon, elle est amoureuse d'un petit jeune de 20 ans. Mais on ne peut pas chanter ça à 20 ans quand on doit chanter la maréchale. On doit être une chanteuse de 50 ans. Donc c'est magnifique, je trouve aussi, que la voix puisse continuer à correspondre à une évolution de la vie tout au long de ce cycle qu'est le nôtre. Alors oui, il y a plein de tessitures, et on change de tessiture aussi avec le temps. Alors, les voix les plus connues pour les voix de femmes, c'est soprano et alto.
Alors, tessiture, vas-y, explique.
Ah, tessiture, ben oui, c'est-à-dire...
Tessiture, c'est pas le tissu.
Non, c'est
où les notes.
Ben oui, où est-ce qu'on va se situer ? Dans l'aigu, dans le grave, entre les deux, c'est-à-dire dans le médium. Alors la soprano, c'est la voix de femme la plus élevée. Mais à l'opéra, il y a des sopranos coloratures, c'est-à-dire celles qui ont beaucoup d'agilité dans l'extrême aigu. C'est la reine de la nuit, par exemple, de Mozart. C'est dans les contes d'Hoffmann, Olympia. C'est l'acmé.
Donc coloratour, elle est soprano et encore plus...
Oui, elle peut vraiment aller titiller les notes très, 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 très aiguës, inscrites avec dextérité, absolument. Et puis, elle a cette virtuosité très cristalline, comme un jeu de clochettes. Voilà.
Celle-là, c'est coloratour.
Celle-là, c'est coloratour. La soprane lyrique, par exemple, c'est Violetta dans Traviata. Elle a beaucoup d'agilité. Elle n'a pas forcément les aigus de la soprano coloratour, ou peut-être elle les a eus, elle ne les a plus, donc elle passe à un autre registre et elle explore encore une autre dimension de sa voix. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui est un peu plus large. Et souvent, on confond la largeur de la voix avec le fait de chanter plus grave. Ça n'a rien à voir. Je parle bien de largeur. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'espace sonore. La voix prend un peu plus de place. Ça ne veut pas dire qu'elle va plus dans le bas. Ça veut dire qu'elle prend plus de place sur le plan sonore, tout simplement. Nous avons après la mezzo-soprano, c'est-à-dire celle qui n'est pas l'alto, mais qui est entre l'alto et la soprano, donc la mezzo-soprano. Donc on va pouvoir explorer, pareil, beaucoup de répertoires qui sont avec quand même du grave. Donc il faut une coloration quand même du grave, et il faut certaines notes de l'aigu tout de même, mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ce qu'on pouvait appeler, par exemple, au 19e, une dugazon. C'est pas joli, hein, comme nom. Mais la dugazon, c'était le registre type de certaines mezzo-sopranes pour quelques rôles en particulier. Voilà. Et puis, bah, la voix d'alto. Alors, la voix d'alto, c'est une voix rare, faut le dire. C'est-à-dire que alto, contralto sont des voix graves de femmes. C'est très rare. C'est-à-dire, c'est la vraie voix avec beaucoup, beaucoup de couleurs sur ce qu'on appelle la quinte grave et même en dessous. Donc vraiment.
C'est quelle note ?
Oh, c'est très bas. C'est très bas. C'est-à-dire que.
Sur un piano, par exemple.
Ah ben, sur un piano, c'est. Ça reste en face de soi, c'est pas trop sur la gauche, mais la main commence à se déporter un peu quand même sur la gauche, quoi. C'est-à-dire que l'idée n'est pas simplement d'avoir la note, c'est qu'avec un orchestre, on puisse continuer à l'entendre.
Oui, c'est ça.
Voilà, et ça c'est pas donné à tout le monde. Il y avait des chanteuses assez emblématiques comme Kathleen Ferrier, par exemple, avec des enregistrements du chant de la terre de Mahler, où effectivement ces notes graves sont incroyables. C'est une espèce de c'est crépusculaire et en même temps une telle présence et une telle sonorité, on se dit oui, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ces registres-là.
Donc ça, c'est ténor.
Alors, là, c'était encore féminin. Sur les voix de femmes, ouais, oui, c'était encore oui. Au féminin.
Féminin.
Et si on descend vers les voix d'hommes, on a les ténors. Alors, ténors, il y en avait plein. Hein.
Donc ça, c'est les ténors, c'est l'aigu des hommes.
C'est l'aigu des hommes, voilà. Alors, il y avait les ténors lyriques, les ténors, ténors di grazia, ça existait aussi, les ténors de grâce, n'est-ce pas? Il y avait les spinto, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est pareil, c'est la question de la largeur. C'est-à-dire, jusqu'où est-ce qu'on peut opposer une voix avec un orchestre? Un orchestre baroque, c'est 15-20 musiciens. Un orchestre Puccini, c'est 80 musiciens. Donc, il faut que la voix puisse chanter avec 80 musiciens, se faire entendre. Donc, c'est pas simple du tout. Donc, le spinto, c'est le plus large des ténors. Et ce qu'on gagne en largeur, on le perd un peu en aigu. Donc, il y a quelques aigus, mais qui n'ont pas la facilité du ténor lyrique ou du ténor di grazia. Voilà. Donc, à chaque fois, on joue avec cette histoire de largeur et de brillant de la voix. Et puis, entre le spinto et le baryton, c'est la voix encore un peu plus grave pour un homme, des fois la nuance, elle est très 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 fine. Elle est très 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 fine. On disait de certains chanteurs qu'ils étaient des baryténors. Ben, c'était comme Madu Gazon tout à l'heure, c'est-à-dire on ne sait pas où les situer. Et c'est plus une question de rôle que de dire à un tel chanteur, vous êtes ça. C'est très dur de dire à un chanteur, vous êtes ça. Il y en a pour qui c'est des évidences, et puis d'autres, ça dépend vraiment des rôles. On pourrait être très convaincu par tel ou tel chanteur dans tel rôle, et puis la fois d'après, ben, ce sera plus compliqué de trouver quelque chose d'adéquation.
Donc on était au baryton.
Alors les barytons, ça commence à être déjà un peu le violoncelle des voix, on va dire. Ça reste extrêmement chantant, ça reste extrêmement lumineux. De toute façon, une voix en général doit rester lumineuse. Et puis, le timbre doit rester jeune, tout le temps. C'est pas une question d'âge. C'est vraiment une question, faut jamais obscurcir la voix. Faut jamais la voiler, faut jamais essayer de la recouvrir de quelque chose d'un peu mat comme ça. La voix doit toujours rester brillante et lumineuse et jeune. On dit toujours que le timbre doit rester jeune. Voilà, donc il y a beaucoup de répertoires de baryton, mais ce qui est rigolo, c'est que par exemple à l'opérette, c'est d'imaginer que le baryton peut être quelqu'un de personnage de 50 à 60 ans comme un jeune homme de 20 ans. Donc ça dépend vraiment, et la texture qu'on attend, et la tonicité dans la voix, et le rapport au texte, encore une fois. Qu'est-ce que le texte dit, et pour quel type de personnage? Voilà, donc le baryton, allez, c'est le séducteur, hein, on va le dire. Je ne sais plus qui c'est qui disait le raccourci à l'opéra, mais un opéra, c'est toujours un ténor qui est amoureux d'une soprano et les deux sont contrariés en permanence par le baryton. Voilà.
In Himmel bei
C'était le Lieder Andy Music, D547, de Schubert, ça veut dire en musique. Et il a été composé en 1817 et est en Ré majeur. Le chanteur basse, c'est Hans Hotter, et au piano, Gerald Moore. Et ce sont les mêmes interprètes pour les prochains Lieder.
Et puis on arrive chez les basses. Alors les basses, il y a les barytons basses qui font la jonction avec le grave. Baryton basse, bah c'est déjà le chanteur qui, tout en ayant la clarté, la tonicité du baryton, a aussi à sa possibilité un certain nombre de notes dans le grave qui sont vraiment présentes et belles et colorées. C'est comme pour la voix d'alto ou de contralto, c'est pas le tout d'avoir la note, il faut qu'elle soit belle et il faut qu'elle puisse exister vraiment. Et puis en dessous du baryton basse, la voix rare, comme pour les altos chez les femmes, la basse. Alors moi, je rencontre souvent des chanteurs qui me disent « moi, je suis basse », et quand on les auditionne ou qu'on les écoute comme ça, ils sont pas basses. Dans le meilleur des cas, ils sont baryton basse. Mais ils vont assez facilement sur le grave, mais ils savent pas quoi en faire. Donc, tout doit être expressif, tout doit être coloré, et tout doit être modulable. Donc c'est vrai que c'est pas, encore une fois, c'est pas le tout d'avoir juste une note qu'on pose comme ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait pour qu'elle vive et qu'elle soit belle. Alors des vraies voix de basse, c'est très 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 rare. Et il y avait un grand chanteur de Schubert qui s'appelait Hans Hotter, et il suffit juste d'écouter quelques mesures de Hans Hotter pour se dire « ah oui d'accord, une basse, c'est ça ». Ou alors c'est le grand inquisiteur, le rôle du grand inquisiteur dans Don Carlo de Verdi, où effectivement une basse, c'est ça. Et dans cet opéra de Verdi, dans Don Carlo, il y a un duo assez fantastique entre Philippe II, roi d'Espagne, baryton, et le grand inquisiteur, basse. Et on se dit, ah oui, quand même, oui, oui, d'accord.
Et qui donc est interprète de basse en ce moment ?
C'est très difficile, c'est très difficile. Là, moi, j'en ai pas vraiment à l'esprit parce que il y a certains moments, certaines années, on ne sait pas qui peut faire tel rôle. Par exemple, quand on fait Macbeth de Verdi, l'opéra de Verdi, il faut une Lady Macbeth. Et bien, il n'y en a pas tant que ça, voire il y a des années où il n'y en a pas. C'est comme des Guillaume Tell de Rossini, il faut trois ténors. Et ben c'est très rare quand un théâtre, une maison d'opéra peut le programmer, parce qu'en trouver un, c'est bien, deux, pas mal, trois, jamais. Donc c'est des voix rares. C'est réellement des voix rares. Alors dans les chœurs, on peut trouver des voix de basse magnifiques, mais la voix de basse qui pourra tenir la scène dans un opéra de Wagner ou autre, et ben c'est pas si fréquent.
Et les voix comme... qui s'appelle Franco Fagioli.
Ah, les contre-ténors.
Contre-ténors.
Oui, alors ça c'est important de le préciser parce qu'on confond beaucoup le haut de contre et le contre-ténor. C'est deux choses totalement différentes.
Les hommes, il y a les deux.
Eh bien oui, absolument, c'est deux choses différentes. Le contre-ténor, c'est le registre pour un homme, le registre exact de la voix d'alto pour une femme. C'est-à-dire, c'est chanter exactement à la même hauteur. Seulement, comment est-ce qu'un homme peut faire pour chanter à la même hauteur ? Il le chante en falsetto, c'est-à-dire pas avec sa voix de poitrine comme je suis en train de parler, mais avec la voix comme ça, si je prends la voix de tête. Voilà, ça c'est la voix de falsetto. Et donc, c'est l'idée de chanter avec cette voix de tête pour arriver exactement au même registre, à la même hauteur qu'une voix de femme alto. Le haut, ça c'est le contre-ténor. Le haut de contre, c'est très très différent. Le haut de contre, c'était une technique de voix baroque, française, quasi exclusivement française, où en fait c'est une technique de chant où on laissait le larynx remonter, jusqu'à avoir une voix un petit peu cravatée comme ça. C'est-à-dire très 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 haute et très perchée comme ça, et sans faire une bascule. C'est-à-dire une technique italienne, plus tard, va opérer une bascule du larynx. Tandis que les Français, eux, gardent, pour ce registre du haut de contre, vont garder cette technique avec un larynx très 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 haut. Dans les hautes contres à la française, aujourd'hui, il y a des gens comme Jean-Paul Fouché-Court, par exemple. Voilà. Et on est vraiment sur du répertoire très spécifique de musique ancienne, de musique baroque et renaissance.
Parce qu'il y avait les castrats avant.
Ah, il y avait les castrats, alors ça c'était encore...
Farinelli.
Ben oui, bien sûr, alors ça c'était encore autre chose. C'est-à-dire
que ces œuvres-là, qui est-ce qui chante maintenant ?
Alors, c'est assez particulier. Alors déjà, l'histoire du castrat, c'est que le castrat, on repérait des enfants qui avaient des aptitudes vocales et on payait leur famille plutôt très richement, n'est-ce pas, pour qu'on puisse soustraire ces enfants à leur famille, leur donner une vraie formation musicale, et les plus méritants, on se posait la question de si on procédait à l'opération ou pas. Là, on est au XVIIe, XVIIIe siècle. Et donc, ben, il y a eu des castratos, c'est-à-dire qu'on les opérait, pour préserver leur voix le plus longtemps possible. Et l'enfant, enfin l'adolescent qui était castré, avait un protecteur. Il avait un mécène, qui était un prince, un duc, enfin, etc. Ce qui garantissait à la famille un revenu. On est dans le sordide. Hein.
Oh, oui, grave.
Ben oui, c'est pas tant de l'artistique que du sordide. Hein. Mais c'était ça la réalité. Hein. C'est-à-dire, en gros, le duc de machin ou le prince de truc avait pas sa danseuse, mais il avait son castrat.
Donc l'enfant était vendu.
Exactement.
Et payé à ses parents à l'achat et ensuite oui. Pour être mutilé.
Exactement.
Pour que sa voix soit gardée, ce timbre d'enfant dans un corps d'adulte.
Oui, sauf qu'en grandissant, on acquiert aussi d'autres dispositions, notamment solfégiques. Donc, on pouvait faire des choses de plus en plus ambitieuses aux chanteurs. Et effectivement, il y a eu des gens comme Farinelli pour lesquels on a composé un répertoire spécifique. Mais on venait écouter Farinelli parce que c'était un phénomène de foire et un immense artiste. Mais combien ont dû être mutilés qui ne sont jamais devenus des immenses artistes. Il y a un enregistrement qui est, enfin moi je trouve bouleversant et en même temps je ne sais pas quoi penser de ça. C'est le dernier castrat. Il a été enregistré en 1905 et il faisait partie de la chapelle du pape. Et bah c'est bien que tout ça soit fini quand même. Parce que ça fait des voix très troublantes. Ce n'est pas une voix de femme comme on écouterait aujourd'hui. C'est une voix de castrat. Donc c'est quelque chose qu'on n'a plus dans l'oreille du tout, et c'est tant mieux.
Et l'amplitude ou la tessiture, c'était...
Ben c'était la mezzo-soprane, c'est de la mezzo-soprane, voire de la soprano. Donc il y a des airs de castrat, des airs pour Farinelli. Par exemple, Handel, à Londres, compose pour Farinelli, parce qu'il sait que si ses opéras sont joués, un des facteurs essentiels pour faire venir le public, on est dans des théâtres de souscription, c'est la présence de stars. Donc les stars, il n'y en a pas tant que ça à l'époque, mais il y a Farinelli. Donc on va composer des airs pour Farinelli.
Okay. Donc maintenant, ce serait plutôt chanté par des femmes.
Oui.
Alto ou
oui.
Soprano.
Oui, absolument. Oui. Absolument. Oui, avec beaucoup de virtuosité dans la voix.
Als dass ich hier ein Blüm
Bach im Frühling, au bord du ruisseau au printemps, l'idée 361, il est en ré bémol majeur.
Freddie Mercury, c'est quoi comme amplitude? Tu l'as entendu avec Montserrat Caballé, les morceaux...
Oui. Mais c'est super parce que c'est des chanteurs qui ont essayé plein de choses. Je pense à Klaus Nomi aussi. Enfin, il y a toute une génération de footrack comme ça qui ont essayé des trucs et c'était formidable hein, parce que Klaus Nomi, ça nous renvoyait quand même quelque chose. Il y avait aussi une chanteuse qui s'appelait Kim. Qui avait des yeux un peu maquillage papillon et qui chantait la reine de la nuit dans les années 80-90 hein. mais c'était bien parce que ça nous montrait en fait que la voix elle peut partir dans toutes les directions possibles. Moi qui ai travaillé pendant 3 ans avec Jane Birkin, c'était pas un monument de puissance vocale Jane, mais quelle émotion avec un petit ambitus, c'est-à-dire entre le grave et l'aigu il y avait pas beaucoup d'intervalles, mais c'était très chargé sur le plan émotionnel. On n'avait pas affaire de choses démonstratives.
Et quelle tessiture, Jane?
Oh, Jane, c'était... Oui, les dernières années, c'était effectivement plus la mezzo. Ouais. Mm.
Et pour finir cette émission, un dernier leader de Schubert, c'est Stanchen, Sérénade, des 957, c'est le dernier leader de Schubert, publié de façon posthume en 1829.
Thank you. Lass auch dir die Brust bewegen.